BFM Business. L'émission 100% placement. BFM Patrimoine. Cédric Decoeur.
Allez, on file tout de suite pour entamer cette deuxième heure sur les marchés. C'est Enric Cristino qui nous attend chez Portzamparc. Bonjour Enric.
Bonjour.
Bon, qu'est-ce qu'on se dit sur ce marché qui semblait vouloir y aller et puis qui finalement a une petite phase d'hésitation? Comment est-ce que vous expliquez tout ça?
Bah, effectivement, en fait, ça fait quelques jours qu'on voit un marché rester plus ou moins scotché autour de 6700 points, une fois au-dessus, une fois en dessous, avec quelques petites accélérations. Alors, ce qu'on peut noter, c'est qu'on a eu quand même des éléments macroéconomiques aujourd'hui, notamment sur l'Allemagne, un peu plus, on attendait 5,5 en taux de chômage et ils ressortent 5,6%. Donc, sur les marchés, on se dit que probablement un premier effet de la hausse de taux et on se dit que peut-être que la cadence de relèvement de taux de la part de la BCE ne sera pas aussi important que prévu. On voit également aussi les matières premières refluer globalement, donc c'est plutôt un bon signal sur notamment si on se projette sur l'année prochaine en termes d'inflation. Donc tout ça mixé, on a un marché qui tient plutôt très très bien, un marché notamment français qui surperforme les grands marchés internationaux aujourd'hui, avec au global des publications qui ont été plutôt assez intéressantes sur les T3. On attend des confirmations sur les T4. En tout cas, le ralentissement il est moins clair que ce qu'on pouvait attendre.
Voilà donc votre regard sur ce marché ce matin. On rappelle qu'il reste ancré en territoire positif, hein, mais qu'il y a eu un profil un peu particulier, on va dire, au cours des dernières minutes. Un petit mot aussi sur un dossier que vous vouliez mettre en lumière, Trigano.
Oui, c'est une publication qui est un peu historique sur le terme des résultats. C'est en ligne avec ce qu'on attendait. Il y a des éléments positifs, d'autres un peu moins positif. Ce qu'il faut voir, c'est qu'ils viennent de sortir.
Ça reste quand même une des plus fortes hausses du SRD ce matin, plus 3,5%, 115,70.
Ouais, parce que vraiment le niveau de marge est quand même relativement historique. C'est la deuxième plus forte marge du groupe historiquement. Donc c'est un groupe qui est coté depuis très très longtemps. La seule petite fausse note, c'est le S2. On a une marge opérationnelle en fait qui est un petit peu moins importante que celle on pouvait attendre chez nous. On attendait 9,4% sur le S2 en marge opérationnelle courante et ils sortent 9,1%. Après, les explications à cela, c'est un peu moins de marge brute. On a 50 BP qui sont liés en fait à l'augmentation des charges de personnel. Le groupe a une politique d'augmentation salariale assez forte et la reprise en fait de dépenses sur les salons marketing, ce qui est pour l'avenir plutôt une très très bonne nouvelle. La seule interrogation qu'on avait ce matin, c'est la position de cash où globalement l'archer attendait quelque chose entre 450 et 500 millions d'euros. Ils ont sorti 125 millions d'euros. Là aussi, en fait, si on regarde de plus près, qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est en fait, ils ont d'habitude, ils réduisent un peu plus les stocks. Là, ça n'a pas été le cas. Il y a eu un effet BFR assez important sur la période. Moi, je noterais surtout, en fait, c'est que la situation est bien orientée et va rester bien orientée. Tous les salons se sont caractérisés par des gros flux visiteurs et ça, c'est plutôt pas mal. Le management confirme également des effets prix positifs d'au moins 5% sur toutes les gammes en moyenne et avec un embarqué de croissance de 5 à 10% pour l'année prochaine. Donc, c'est un profil de risque qui est relativement faible pour nous. Il y avait une zone d'ombre sur la possibilité de livrer des châssis. Effectivement, sur le T1, ça a été un peu compliqué, mais on voit que depuis le T2, les choses s'améliorent assez nettement. Donc, on est assez confiant sur le titre, avec une valorisation autour de 160 euros pour notre analyste.
pour un titre en forme hein, ce matin, Trigano, qui fait partie des plus fortes hausses du SRD, 115,70, plus 3,49%. Merci beaucoup Henrik Christineau et Porzampar qui nous accompagnaient ce matin. Le marché parisien reste orienté à la hausse et au-dessus des 6007, plus 0,62% en ce moment. Tout de suite, l'info éco avec Nathan Cocampo.
BFM Business, l'info éco.
Des indicateurs en France, l'inflation se stabilise à 6,2% sur un an en novembre selon l'INSEE. La croissance du PIB est confirmée à plus 0,2% au troisième trimestre. La consommation des ménages, elle, enregistre sa plus forte chute depuis avril 2021. Elle baisse de 2,8% en octobre. En Allemagne, le taux de chômage augmente. Il est désormais à 5,6% en novembre avec 17 000 personnes sans emploi supplémentaire. Globalement, le marché reste stable selon l'Office fédéral du travail. En Chine, l'activité manufacturière poursuit sa chute en novembre pour le deuxième mois consécutif. Une activité toujours lestée par les restrictions anti-Covid. Les marchés s'interrogent, le FMI aussi. Le fonds dit qu'il pourrait devoir réviser à la baisse ses perspectives de croissance pour le pays. Et on apprend que l'ex-président chinois Jiang Zemin est décédé à 96 ans. Il avait dirigé le pays de 1989 au début des années 2000. Emmanuel Macron à Washington, c'est la première visite d'État organisée par Joe Biden. Plusieurs dossiers sensibles en discussion, le gaz que les Américains nous vendent 4 à 5 fois plus cher que les clients américains, mais surtout l'Inflation Reduction Act, un protectionnisme assumé fortement critiqué en Europe. H&M va supprimer 1500 emplois pour réduire ses coûts. Le groupe suédois, qui emploie 150 000 personnes dans le monde, a lancé en septembre un plan visant à économiser 2 milliards de couronnes suédoises par an. Renault et Airbus s'allient dans la batterie électrique du futur. Les deux groupes ont signé un accord de recherche pour concevoir une batterie solide destinée aux voitures électriques et aux futurs avions hybrides. Une technologie qui pourrait permettre des gains de coûts, de poids et une plus grande autonomie. Et enfin, Michelin poursuit sa restructuration. Le groupe a annoncé hier la suppression de 451 postes, essentiellement dans le tertiaire. Un chiffre toutefois revu à la baisse. Ce sont donc au total 1600 départs et non 2300 comme prévu initialement. Vos rendez-vous du jour sur BFM Business. Antoine Monin, directeur général France de Spotify, sera l'invité de Good Evening Business ce soir à 19h15. Et Sidonie Dumas, directrice générale de Gaumont, sera l'invité d'Edwige Chevrillon dans la grande interview. C'est ce soir à 19h30.
Nathan Cocampo qui nous accompagne chaque heure ce matin pour lire l'actualité économique. Nous, on ouvre Regards Croisés.
BFM Business, BFM Patrimoine, Regards Croisés.
Philippe de Cholet, bonjour.
Bonjour Cédric.
Pour Matignon Finance et Thibaut Prébet, bonjour Thibaut.
Bonjour Cédric.
Pour Financière Arbevel, quand on regarde un petit peu les évolutions du marché, depuis y compris quelques semaines, on a l'impression qu'elles surfent, ces bourses, sur la disparition d'un certain nombre de craintes qu'elles considéraient jusqu'alors comme extrêmes. Est-ce que vous partagez ce sentiment? Et si oui, selon vous, quelles sont les craintes majeures qui préoccupaient ou qui doivent encore préoccuper les marchés, Philippe ?
Ben c'est clair qu'on est parti d'une situation où on imaginait le pire, notamment sur l'inflation. Une inflation devenue incontrôlable, en quelque sorte, avec un ralentissement économique marqué, une récession claire et nette. On s'achemine vers un scénario sans doute moins dramatique. Une inflation qui a peut-être atteint son pic, on le verra dans les prochaines semaines, mais on en est en tout cas plus très loin, en tout cas à mon avis. Et une croissance qui ralentit sans pour autant, à ce stade, en tout cas, plonger dans une récession. Donc si effectivement vous intégrez ces éléments, plus des résultats des sociétés qui ont quand même globalement été de bonne facture au premier semestre, avec un discours finalement, somme toute, assez serein de beaucoup de chefs d'entreprise, ben, vous avez tous les ingrédients pour que les investisseurs, progressivement, n'imaginent plus le pire, mais plutôt au contraire, un scénario de ralentissement marqué, mais qui ne soit pas non plus une récession, avec tout ce que cela implique comme conséquence en cascade.
Thibault, votre regard, quelles étaient les craintes ou quelles sont encore les craintes?
Déjà, il faut quand même modérer un peu le discours en trompe-l'œil, c'est-à-dire que ce CAC 40 fait un parcours qui est impressionnant, encore après l'année prochaine, est revenu plus si loin que ça de l'équilibre. Un CAC small, déjà, c'est moins 20. Des indices américains, c'est la même chose. Des indices asiatiques, c'est pas tellement mieux. Donc c'est vrai qu'il faut aussi avoir en tête que le CAC a un comportement très singulier, porté par certains gros poids qui se comportent bien, par Total qui avait plutôt pas aidé pendant des années, qui encore une fois pousse beaucoup. Donc voilà, c'est malgré tout pas très représentatif de la réalité ni des portefeuilles.
Faire quand même un peu de cocorico pour une fois.
Bien sûr, mon point est juste de dire qu'on n'est pas non plus à des niveaux de marché qui sont encore stratosphériques, à part effectivement cet indice qui enchaîne deux très grosses années par rapport à ses comparables. Les perturbations, c'est quoi depuis le début de l'année? C'est les élections américaines, faibles. C'est plus important l'Ukraine, Russie-Ukraine. C'est effectivement ce ralentissement. Et en filigrane, cette idée que si on a un ralentissement qui arrive, c'est embêtant, mais si l'économie va bien dans une inflation qui est hors de contrôle, c'est pas bien non plus. Donc un scénario où en fait rien n'est bien tant que l'inflation n'est pas réglée. Donc si on regarde toutes ces perturbations, bon, les élections américaines c'est parfait, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de majorité forte ni pour l'un ni pour l'autre, et tous les gens qui sont un peu anti-démocratie sont plutôt fait balayer, donc ça c'est plutôt cool. Si on regarde la crise ukrainienne-russe, on a à la fois quelque chose qui est arrêté. Donc le scénario un peu catastrophe de début d'année qui est que la Russie allait enchaîner avec les pays baltes, etc. Bon, on a quand même oublié. Et la Russie désormais veut revendre des hydrocarbures à l'Europe qui en veut plus, ce qui nous fournit quand même une porte de sortie potentielle en cas de problème qui est pas non plus inintéressante. Donc ça s'est un peu amélioré. Au niveau de l'inflation, c'est en train de rebaisser fort. Si vous regardez par exemple les prix à la production en Chine, c'est pas compliqué, les Chinois produisent et nous on consomme. Donc si vous regardez les prix à la production en Chine, ça a une bonne valeur avancée des prix à la consommation en Europe. Ils s'étaient montés à 13-14% de hausse, on est revenu en négatif sur un an. Donc ça laisse supposer que ces différents éléments vont baisser. On a encore des très fortes hausses de prix alimentaires, mais les prix des engrais sont en train de s'effondrer. Donc tous les éléments un peu avancés.
Donc c'est-à-dire que les anticipations d'inflation devraient logiquement baisser?
Tous les éléments avancés baissent déjà, alors que c'est déjà en train de baisser. Donc ça laisse supposer que cet élément va continuer. Alors pourquoi c'est intéressant? C'est intéressant parce que le scénario noir, c'était une économie qui plonge sans que l'inflation ne baisse. Aujourd'hui, il existe une possibilité qui est faible, qui n'est pas un scénario central, que l'inflation baisse rapidement sans forcément que l'économie s'effondre. Ce qui est l'opposé du scénario envisagé et ce qui est plutôt pas si négatif. Et donc du coup, au niveau des news, on va dire que le risque de que le plus négatif semble quand même s'éloigner pas mal et que des scénarios un peu plus positifs gagnent un peu en traction. Mmh. Ça ne veut pas dire que tout est super, mais ça veut dire qu'effectivement, je reprends toujours cette phrase sur votre antenne dont vous vous lassez, mais j'aime bien cette phrase de « on entend les arbres tomber, on n'entend pas la forêt pousser ». C'est un peu ça. On a pris toute l'année des plombs dans la tronche. On les a bien sentis, on les a bien entendus. Mais là, on voit quand même que petit à petit, quand on regarde la situation, ça fait pas de bruit, mais elle est toujours un petit peu meilleure. Il faut espérer que ça dure. Rien d'incertain quand même.
Bon, ça veut dire qu'il faut commencer à se poser la question de la baisse du rythme de l'inflation? Parce qu'effectivement, le chiffre européen, il est assez... il reste quand même à 10, mais on va dire que par rapport au 10,6, il a baissé un petit peu. Et puis, au même moment quasiment, on a Christine Lagarde qui nous dit l'inflation n'a pas encore atteint son sommet.
Tout dépend de l'objectif que vous vous fixez. Si effectivement, comme la Fed, l'objectif est de revenir à 2% d'inflation, il va nous falloir un certain temps, quand même. Moi, j'ai du mal à imaginer qu'on puisse même revenir à 2% dans un avenir prévisible. Je pense qu'il y a plus de raisons d'imaginer une inflation autour de 3,5-4% dans la durée. Donc, ça signifie que de toute façon, les banques centrales n'ont pas vraiment le choix que de maintenir un discours assez hawkish, comme on dit en anglais, assez dur, pour faire en sorte que progressivement, les acteurs économiques s'alignent. Ne se livre plus à des anticipations inflationnistes incontrôlées. Donc je pense qu'on va probablement effectivement avoir une dichotomie en quelque sorte entre les premiers signes d'une désinflation qui vont se mettre en place, comme le disait Thibault, et la persistance d'un discours hawkish en revanche de la part des banques centrales, histoire de maintenir quand même une pression suffisamment forte pour que progressivement on revienne fin 2023, début 2024 à des niveaux d'inflation jugés acceptables.
Si l'inflation, entre guillemets, ne baissait pas aussi rapidement que prévu, qu'est-ce que ça pourrait avoir comme conséquence, Thibault ?
Alors déjà, il faut avoir en tête qu'il y a deux inflations. Il y a l'inflation qui intègre l'énergie, qui en Europe est un gros sujet, puisqu'on a ce problème sur l'énergie.
L'inflation ou la core inflation.
Voilà, cette disponibilité du parc énergétique avec des problématiques d'approvisionnement en gaz, tout ça donne une situation atypique. On a une inflation qui a beaucoup baissé, qui va continuer à beaucoup baisser en intégrant les prix d'énergie, puisque ceux-ci viennent de beaucoup baisser. Madame Lagarde parle plutôt de l'inflation core, qui effectivement n'a pas forcément atteint ses plus hauts. En tout cas, rien n'est sûr. Ce qui est sûr, c'est qu'aux États-Unis, si l'inflation n'arrive pas à baisser, c'est bizarre. Parce qu'on a quand même aujourd'hui un nombre de statistiques qui sont très claires, avancées, sur les prix venant de Chine, sur un certain nombre d'éléments qui sont plutôt de nature à créer quand même une accalmie de l'inflation. Donc si ça le fait, c'est probablement que l'économie est beaucoup plus vigoureuse que prévu, ce qui sera positif d'un point de vue cyclique, mais ce qui sera probablement négatif, ça entendra plus de hausse de taux. C'est un scénario qui n'est pas facile à imaginer, parce que toutes les composantes avancées sont quand même en retrait, et la seule composante qui reste forte dans l'inflation, c'est le logement, sachant que les prix de l'immobilier, on va dire spot, décroissent de manière constante. Donc c'est quand même pas très évident. En Europe, c'est un sujet qui est plus réaliste. C'est-à-dire que si cette crise énergétique mettait 2 ans à se résoudre, ce qui n'est pas un scénario central, mais ce qui est possible, même si aujourd'hui les efforts faits par les citoyens en termes de baisse de leur consommation et les efforts politiques sont majeurs, là ça peut être un peu problématique. Et là pour le coup, ces hausses de taux qui étaient plus symboliques pour revenir à un taux qui donne des marges de manœuvre pourraient aller plus loin. Je pense qu'aujourd'hui la certitude est probablement plus forte sur l'inflation et l'action de la Banque Centrale Européenne que sur les États-Unis, avec ce simple bémol que les marchés sont quand même très menés par les marchés américains et qu'il est probable que les actions européennes réagissent plus à l'inflation américaine qu'à l'inflation européenne, en mettant peut-être de côté les sociétés allemandes qui sont très énergivores, mais sinon on est quand même malgré tout pas un marché très leader. Donc voilà, ce serait assez étonné qu'on ait des grosses surprises sur la partie américaine. Sur la partie européenne, on est quand même dans quelque chose qui est beaucoup moins lisible parce que c'est beaucoup moins économique et beaucoup plus politique, et que la politique et la guerre en particulier sont évidemment des phénomènes où notre valeur prédictive me semble, en tout cas chez Financière Arbevel, franchement limitée.
Si on ne baisse pas aussi vite que prévu, pour revenir à ce que vous nous disiez tout à l'heure, des banques centrales qui vont être obligées de maintenir finalement un petit peu de pression, etc. Est-ce qu'on peut imaginer jusqu'où peut aller cette pression? Alors parlons d'abord peut-être de la Fed, mais la BCE, quoi qu'un peu en dessous, garde pour le moment, et j'évoquais les propos de Christine Lagarde à l'instant, jusqu'où les banques centrales finalement peuvent aller et quels dégâts ça pourrait produire par contre-coup sur nos économies, sur la croissance?
Ben pour ce qui est de l'Europe, en tout cas, une chose est sûre, c'est que la Banque Centrale Européenne doit tenir compte de l'avis de ses principaux responsables qui, eux-mêmes, émanent de pays dont la situation financière est fort différente. En d'autres termes, les pays fort endettés comme la France et l'Italie vont probablement faire pression d'une manière ou d'une autre pour que, si hausse des taux il y a, elle reste mesurée. Les Allemands auront évidemment un avis assez différent. Donc, comme toujours avec la BCE, tout est une affaire de consensus, de plus petits dénominateurs communs, et je pense que l'objectif est d'envoyer un message suffisamment clair, effectivement, pour bien dire aux acteurs économiques non, n'attendez pas de notre part une baisse des taux en 2023. En revanche, s'il s'agit effectivement de modérer les hausses de taux à venir pour tenir compte, malgré tout, du ralentissement économique en cours, en regardant de très près, d'ailleurs, si on plonge ou non dans la récession, a priori, chez nous, on considère qu'il y a peu de chances que la récession soit forte en Europe. Alors oui, effectivement, vous allez avoir un discours dans les faits plutôt quiche, donc assez en phase avec celui de la Fed, mais dans les faits, probablement beaucoup plus modéré que ce que l'on attend. Voilà. Surtout si la croissance reste positive.
Jusqu'où peuvent aller les banques centrales? Et du coup, la question corollaire, en fonction de ça, quels dégâts?
Le problème, c'est que la question jusqu'où, il n'y a pas de limite, la question c'est jusqu'où doivent aller les banques centrales. En Europe, elles peuvent aller où elles veulent, parce qu'en fait, l'inflation, elle n'est pas très liée à des phénomènes monétaires. Il n'y a pas une vitesse de circulation de la monnaie en Europe, il n'y a pas des chèques qui ont été faits à tout le monde, il n'y a pas ce côté un peu exagéré, il n'y a pas des marchés immobiliers qui sont partis complètement en live partout. Et donc, on n'a pas ce sentiment en Europe qu'il faille. Qu'est-ce qu'on doit faire? Voilà. Qu'est-ce qu'elle peut faire? Remettre des taux à des taux neutres qui donnent un peu de marge de manœuvre, éviter quand même que ça s'emballe trop. Aujourd'hui, on a des taux autour de 2% dans la zone. C'est quand même pas des taux qui sont très restrictifs, qui sont problématiques. C'est des taux qui sont inférieurs aux moyennes historiques, donc ça devrait pas déstabiliser quoi que ce soit. Ça paraît bien. On peut et doit aller beaucoup plus haut s'il y a des phénomènes qui laissent supposer que l'inflation s'intègre. Il y a des pays comme la Belgique, par exemple, où tous les salaires augmentent mécaniquement de l'inflation. Donc si vous augmentez vos salaires de 10%, il y a une chance que tout le monde augmente ses prix en disant qu'il y a plus de revenus, que vous créez une spirale. La question, c'est est-ce qu'on peut éviter une spirale? Est-ce qu'il y a besoin de faire quelque chose? Si c'est le cas, il faut taper fort et ils le feront. Aux États-Unis, qu'est-ce qu'ils doivent faire? Honnêtement, aujourd'hui, ils sont allés assez loin. On a un marché immo qui est en train de craquer, avec pendant ce temps-là, quand même des cibles d'inflation qui tous donnent le même élément. Et que ce soit les chiffres d'inflation, les chiffres d'inflation associée aux indices d'activité qui donnent à chaque fois des perspectives de prix qui sont toujours en baisse. Je pense qu'il n'y a pas forcément besoin d'aller beaucoup plus loin.
Là, et pour autant, il y a un marché de l'emploi qui lui reste quand même très dynamique. Enfin, on va voir ce que ça va donner.
C'est ça, mais il n'est pas certain qu'on ait besoin de détruire de l'emploi pour arrêter l'inflation. C'est-à-dire que je crois réellement que l'inflation est structurellement basse parce que le marché de l'emploi est structurellement bon, parce que la natalité est très faible et crée peu de nouveaux consommateurs. Et donc, c'est un marché structurellement de demande en baisse et un marché structurellement de plein emploi qu'on doit avoir pour les 20 prochaines années. Les comparaisons de la Réserve fédérale qui date des années 70, où on avait 4,5 enfants par femme, donc le nombre de nouveaux consommateurs avec un nouveau pouvoir d'achat augmentait tout le temps, donc la demande augmentait tout le temps, et du coup, dès qu'on a rebaissé l'un taux, l'inflation est repartie. Et la Réserve fédérale veut éviter ce côté où elle calme son discours et ça repart. Moi, je ne suis pas sûr que ça puisse repartir pour ces raisons démographiques qui fait qu'on n'a pas la vigueur de consommation qu'on avait dans les années 70, donc on n'a pas de raison que dès qu'on se calme, ça reparte. Pour autant, les deux dernières années nous ont amenés à se poser des questions sur la réalité de notre capacité de prévision des scénarios économiques. Donc il faut rester humble et accepter le fait que aller un trop petit peu trop loin pour éviter que ça rechute direct est quelque chose qui est compréhensible, qui est sain et qui semble être quand même aujourd'hui le chemin de la Banque Centrale qui n'a pas encore beaucoup fait varier son discours malgré des chiffres qui sont quand même pas mal renversés.
Philippe nous a donné un petit peu sa vision sur la récession. Vous, on peut éviter selon vous chez Financière Arbevel une récession en 2023 ?
Chez Financière Arbevel, on pense une chose simple, c'est que dans un monde où il n'y a pas de croissance potentielle, puisqu'en Europe on est à Pouillem, en France on n'est pas si loin que ça des zéros, la récession ça veut rien dire. Si on parle d'une dépression, on parle de 2008, on parle de moins 12,8 au quatrième trimestre en Allemagne, ça cogne. Ça, je pense qu'il n'y a pas trop de risques. Parce qu'on a un consommateur qui va bien, on a des sociétés qui vont bien, et on part avec, encore une fois, un emploi qui est très fort. Ce qui fait que le risque que tout le monde se dise « j'arrête de consommer, j'épargne, j'ai peur de me faire licencier », ce qui est un peu le démarrage de chaque crise, oui, objectivement est inexistant. Je pense que chacun d'entre vous ne connaissait pas beaucoup de gens qui sont terrorisés à l'ordre de perdre son emploi aujourd'hui, sauf à travailler chez Meta ou chez Twitter. À côté de ça, vous avez quand même une situation où on part d'une croissance potentielle faible. Donc même si on est un point sous le potentiel, ce qui est très bas, on aura une récession. Ça, je pense qu'il n'y a pas trop de doute. Mais je ne crois pas que ce soit très grave. C'est-à-dire que je pense que on a un, deux trimestres tous les ans qui sont négatifs. S'il y en a deux qui se mettent côte à côte, ça fait une récession. Je crois que ce n'est pas très grave. Et je pense qu'en fait, on a plus de risques de ralentissement peut-être aux US qu'en Europe par rapport au rythme actuel, mais que le rythme actuel aux US étant significativement plus fort dans son potentiel qu'en Europe, on va plus vite en récession en Europe. Donc une récession, je pense qu'aujourd'hui, c'est dans les cartes. Une récession de nature à déséquilibrer complètement les structures économiques et les marchés. Ce n'est pas aujourd'hui un scénario dominant, même si il y a eu beaucoup d'optimisme sur la tenue des résultats qui sont concrétisés. Ce n'est pas non plus dû que ça dure toute l'année 2023 où il y aura des challenges. On pense particulièrement au début d'année où les conditions énergétiques ne vont quand même pas aider.
Un mot de plus sur cette récession. Enfin, vous nous avez dit, a priori, pas trop, mais...
Non, mais globalement, je suis assez en phase avec ce qu'a dit Thibault. Je pense qu'il n'y a pas lieu de redouter un décrochage brutal de l'activité. Bon, ensuite, c'est un peu l'épaisseur du trait. L'essentiel, malgré tout, c'est que le marché de l'emploi résiste. C'est quand même globalement le cas. L'essentiel, c'est que la hausse des prix amorce quand même un flux. Et ça va probablement être le cas pour les raisons qu'évoquait Thibault dans le courant du premier semestre 2023. Donc je pense que pour le moment, voilà, il n'y a pas lieu de s'alarmer. Et c'est finalement ce que reflètent les marchés aujourd'hui. Et c'est plutôt, je trouve, une bonne chose.
Du coup, si on essaie de jouer un petit coup d'avance, parce qu'on s'approche de la fin d'année, donc comment se positionner un petit peu pour démarrer, bon pied, bon oeil, l'exercice 2023, Thibault, comment est-ce que vous voyez les choses en termes d'allocation d'actifs, en termes de bourse, en termes...
C'est historiquement difficile. C'est historiquement difficile parce qu'on a envie de se dire qu'on veut des valeurs de croissance, des valeurs qui sont souvent peu énergivores et qui vont bien passer l'hiver, et ça paraît relativement évident. Et dans le même temps, les valeurs cycliques se payent rien. Et donc ceux qui disent la value ça vaut rien, il y a quand même des choses à ramasser, on ne peut pas non plus leur donner tort. Donc on est sur un patrimoine où malgré le fait que le CAC a beaucoup monté et que certaines valeurs restent chères, il y a quand même énormément de choses très déclassées, en particulier dans la croissance, mais aussi dans des valeurs très cycliques. Il y a vraiment de quoi aller chercher. On peut penser quand même que sur les petites valeurs, qui sont encore à moins 20 cette année, après avoir déjà largement sous-performé l'année dernière, alors que les résultats sont bons, il y a quand même aujourd'hui des fenêtres d'opportunité qui restent assez majeures. Donc acheter pour le long terme, quel que soit son style, je pense qu'il y a largement de quoi faire. Et probablement que les small qui sous-performent toujours dans ces débuts de ralentissement commencent à présenter aujourd'hui des zones d'opportunité qui sont assez massives. Donc faire des courses pour le long terme, mais en profitant du fait qu'aujourd'hui, il y a quand même beaucoup de choses qui ont quand même pris des bons bouillons cette année, qu'on ne trouve pas forcément dans les résultats des sociétés, et qui offrent quand même des opportunités pour ceux qui trouvaient l'année dernière que les marchés étaient un peu chers.
Philippe, votre petite cuisine pour préparer le portefeuille 2023.
Je suis totalement en phase avec ce que dit Thibault. On peut faire son shopping aussi.
Donc c'est le règne du stock picking, quoi.
C'est le règne du stock picking avec toujours cette volonté quand même de diversifier ses avoirs, tant d'un point de vue sectoriel que géographique. Probablement un peu tôt pour jouer la Chine, encore que la Chine soit à des niveaux historiquement très bas quand même. Donc jouer la Chine à travers des indices ou des paniers de valeurs très larges avec un horizon 18-24 mois, pourquoi pas. Les small caps sont effectivement à la ramasse et là je pense que mieux vaut les jouer aussi à travers des fonds, histoire de ne pas prendre de risques excessifs par valeur. Et puis tant dans les grandes valeurs de croissance ou cycliques, franchement, on a encore l'embarras du choix. Et ce que disait Thibault est très juste, c'est savoir que la hausse du CAC a reposé quand même sur un nombre de valeurs très réduites, en laissant derrière elle un paquet de gens sur la route. dont de très belles valeurs qui ont publié de bons résultats avec, et c'est encore le plus important, un message assez encourageant sur les carnets de commandes et sur les perspectives d'activité pour l'année prochaine. Et ceci, moi, m'amène effectivement à recommander un stock picking assez diversifié, somme toute.
Action ou aussi du taux, parce que je vais rien vous apprendre, vous en avez lancé un il n'y a pas si longtemps, un fonds de portage, donc
faut être clair,
on peut prendre un peu de taux aussi.
On sait que l'auditeur de BFM ou le visionnaire aime bien les actions, donc on a des véhicules actions. Aujourd'hui, le plus consensuel de très loin, c'est acheter des obligations. Pourquoi ? Parce que les obligations cette année baissent de 12-13%, ce qui est un peu moins que la plupart des indices actions, mais ce qui n'est pas très loin. Or, sur l'obligataire, on sait quand même vaguement qu'on va retrouver ses cours, et qu'aujourd'hui, on a des hausses de spread de crédit, c'est-à-dire des taux qu'on peut capter de l'ordre de 7% assez facilement, et que dans le même temps, ce qui est assez étonnant, c'est que beaucoup de gens veulent placer de l'argent. Donc on a énormément d'afflux de capitaux, y compris sur notre fonds Credit Opportunities, je vous remercie de le signaler. Et à côté de ça, on a des sociétés qui ne veulent pas émettre, parce que souvent, elles ont dépensé leur cash ces dernières années, qui étaient rémunérées négativement pour rembourser leur dette par anticipation. Elles ont parfois envie de racheter leur dette quand elle est peu chère, mais elles n'ont pas forcément envie d'émettre au taux actuel. Ce qui fait que dans cet équilibre offre-demande, on a très peu de demandes de financement, on a beaucoup de gens qui veulent financer, et donc on a une tendance à avoir des rétrécissements assez forts. Et donc je pense que, on va dire que pour un investisseur action, il y a des opportunités intéressantes, mais à l'instant T, le plus évident aujourd'hui reste quand même les stratégies obligataires qui offrent en fait cette visibilité des flux futurs dans une période où l'incertitude reste élevée. Donc oui, les actions, c'est facile d'y répondre. C'est clair que pour nos clients et nous-mêmes, l'obligataire reste malgré tout le truc le plus évident aujourd'hui.
Ça vous tente aussi, vous, l'obligataire ou pas, Philippe ?
Oui, mais lorsqu'on parle du marché obligataire, faut-il encore de savoir de quoi l'on parle ? Oui. Est-ce que ce sont des corporates ? Est-ce que ce sont des souverains ? J'ai tendance à plutôt avoir tendance à privilégier aujourd'hui effectivement les obligations corporates, aussi des obligations convertibles, hein, qui offrent quand même ce parachute obligataire qui peut être utile dans un scénario où vous anticiperiez quand même la poursuite du redressement des indices actions l'année prochaine. Donc oui, certainement le retour de l'obligataire dans les portefeuilles qui avait quand même assez largement disparu ces dernières années, il faut bien le dire, mais de façon assez sélective en sachant bien quel segment du marché obligataire on s'adresse.
Merci beaucoup à tous les deux d'avoir participé à Regard Croisé ce matin. Donc Thibaut Prébet pour Financière Arbevel et Philippe de Cholet pour Matignon Finance. Bon retour à tous les deux. Le marché parisien qui reste pour le moment en territoire positif, même si on s'est éloigné un petit peu des plus hauts du jour qui tournaient autour du pourcent de progression. Pour le moment, on gagne 0,59% à 6708 points. N'oubliez pas non plus les replays qui vous attendent sur le site ou sur vos plateformes préférées qui vous permettent de nous retrouver au moment où vous le souhaitez. À tout de suite.
BFM Business. L'émission 100% placement. BFM Patrimoine. Cédric Decoeur.
On entame ensemble cette dernière demi-heure de BFM Patrimoine en faisant un petit détour technique sur les marchés grâce à Gilles Santacreux que l'on retrouve chez boursicoté.com. Merci Gilles de suivre cette séance ce matin pour nous. Que se dire sur ce marché qui a tenter de prendre de l'altitude. Quand on regardait un petit peu la courbe vers 10h30, on se disait « Oh là là, mais ça va grimper comme un funiculaire. » Et puis finalement, on s'est un peu pris les pieds dans le tapis.
Oui, mais l'orientation reste tout de même haussière. Hein. On a un marché qui reste plutôt bien orienté. Le dépassement de la zone des 6730 points a validé la reprise haussière. Et par rapport à la dynamique que nous avions précédemment, la faible consolidation n'a pas, donné de signaux trop dangereux. On a un risque chinois qui s'est un petit peu évaporé dans la tête des investisseurs. On le voit bien au niveau des variations du WTI. WTI, en fin de semaine dernière, il était à $80 le baril. On est redescendu à 73,60, donc sur le début des inquiétudes de la baisse de production en Chine. Et là, on vient de revenir à $80 le baril. Donc, on voit bien qu'il y a une adéquation entre justement l'évaporation de ce risque, hein, si j'ose dire, et la remontée des marchés donc du côté de l'Europe. Donc, on peut continuer à regarder vers le haut. Je reste avec un objectif à 6750 points. En support intraday, on surveillera si les cours ont du mal à remonter, la zone des 6690 points, qui pourrait être un bon point d'entrée donc pour jouer justement cette reprise haussière. D'un point de vue du marché, on a des échéances majeures, donc on risque d'être dans une phase d'attente jusqu'à cet après-midi. Je rappelle notamment Jérôme Powell qui va s'exprimer. On commence à avoir un consensus qui s'oriente sur une prochaine hausse des taux à 0,50, ce qui pourrait là aussi redonner un petit peu de la conviction haussière donc pour la suite. Et la perspective de taux, à moyen terme, serait, on a un consensus qui se dégage autour de 5%. Le fait que l'on ait justement un début de ralentissement sur cette hausse des taux par la Fed pourrait continuer à alimenter les marchés à la hausse. On commence à parler de soft landing du côté donc de cette évolution des taux. Et quelque part, c'est à mon avis ce qu'on est en train de commencer à anticiper sur la hausse que nous avons eue ce matin et qui pourrait bien continuer. Donc, on va surveiller les stocks de pétrole brut qui seront donnés cet après-midi et qui pourraient justement continuer à nous donner des éléments sur cette possible poursuite de mouvement haussier. Donc, les ADP, bien entendu, les discours de Jérôme Powell. Sur le marché des devises, on a un euro-dollar qui est toujours en train d'osciller entre 1,0360 et 1,05. Ce sont des zones majeures pour l'évolution de cette paire de devises. Alors, on a une paire qui est un peu moins regardée, qui est le GBP-USD, qui est en train aussi d'osciller autour d'une zone des 1,20, qui est une zone aussi majeure et historique. On a un dollar index qui reste à 1,06. Tout ça pourrait nous donner, en fonction justement de ce que dira Jérôme Powell ce soir, eh bien, on pourrait revenir à un marché beaucoup plus optimiste, quel que soit, je dirais, l'actif que l'on va surveiller, et qui pourrait réorienter les marchés vers une démarche un peu plus positive, on va dire, que ce que nous avons eu ces derniers mois. Voilà, donc toujours haussier avec des perspectives donc qui restent positives pour la suite.
Merci beaucoup Gilles. Gilles Santacreux depuis boursicoté.com ce matin qui nous accompagnait sur ce marché parisien qui pour le moment reste effectivement accroché à une tendance haussière même si elle s'est un peu effritée depuis son sommet de 10h30. Le CAC progresse de 0,69% à 6715 points.
BFM Business, BFM Patrimoine, matières à réflexion.
Dans matière à réflexion, cette semaine, on vous propose d'investir dans le marché de l'eau grâce à Natalia Riabko. Bonjour Natalia.
Bonjour Cédric.
Merci d'être avec nous pour Ascensia Business School. D'abord, on fait un état des lieux. Quelle est la situation actuelle au niveau mondial sur ce marché de l'eau?
Alors, on va parler des choses plutôt pessimistes. Déjà, plus d'un milliard de personnes aujourd'hui sont privées d'accès à l'eau. Et pour un milliard, c'est limité. D'ici 2035, la situation pourrait s'aggraver quand la demande mondiale en eau douce dépassera l'offre de 40%. Donc, on est face déjà en phase de quelque chose de très, très perturbant. Et il y a plusieurs raisons à cela. Le changement climatique, d'abord, les effets des activités humaines et la croissance démographique, bien sûr. Bien que 70% de la surface de la Terre soit couverte d'eau, moins de 1% est potable. Ainsi, l'eau devient progressivement la source la plus précieuse de la planète. 70% de toute l'eau douce dans le monde d'aujourd'hui est consommée par l'agriculture, à savoir l'agriculture irriguée. Et les 30% restants sont répartis à parts égales entre l'industrie et le secteur de l'habitation. Alors, l'eau du robinet devient de plus en plus imbuvable et par conséquent, au cours de deux dernières décennies, on voit que l'eau en bouteille est devenue le segment à la croissance la plus rapide. Et on va dire que ce marché se développe très intensivement dans certains pays. Par exemple, au Mexique, en Chine, en Inde, mais cela que pour les couches les plus aisées de la population. Ah, ouais. Et les pauvres continuent de boire de l'eau contaminée, malheureusement.
On imagine que, effectivement, comme vous venez de le dire, ce n'est pas tout à fait pareil à tous les endroits de la planète. Est-ce qu'on peut citer les pays qui sont les mieux pourvus en ressources d'eau?
Oui. Alors, par exemple, c'est le Brésil, aujourd'hui, qui s'occupe de la première place. Après, c'est la Russie, les États-Unis, le Canada, l'Indonésie, la Chine, la Colombie et le Pérou. Après, la plupart des ressources en eau par habitant se trouvent, par exemple, en Guyane française, en Islande, en Guyane, au Suriname, au Congo, au Gabon, au Bhoutan et aussi en Norvège et en Nouvelle-Zélande. Et également dans la plupart des pays de l'Amérique latine, évidemment. Et la plus petite quantité de ressources en eau par habitant se trouve au Koweït, aux Émirats, au Qatar, aux Bahamas, en Oman, en Arabie Saoudite et en Libye.
D'accord.
Donc, qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à cela? Que la rareté des eaux de surface propre et fraîche oblige de nombreux pays à utiliser davantage des eaux souterraines. Pardon. Et dans l'Union européenne, déjà 70% de toute l'eau utilisée par le consommateur de l'eau provient d'aquifères souterrains. C'est la réalité d'aujourd'hui. L'Asie sera toujours le continent en fait, le plus consommateur au monde. Voici 70% de la superficie totale des terres agricoles irriguées dans le monde. Et en plus, avec le taux de croissance démographique très élevé, l'Asie affiche des taux très élevés aussi de développement et de la richesse. Donc, ces facteurs vont contribuer et vont affecter le mode de consommation. Et cela veut dire qu'il y aura une demande accrue pour l'eau.
Donc, les principaux moteurs, vous avez dit, c'est quoi? C'est l'irrigation, effectivement?
C'est l'irrigation, c'est l'agriculture.
Ouais. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme moteur de croissance cette consommation d'eau?
En ce qui concerne les moteurs de croissance, on va parler d'abord de la santé, parce qu'il s'agit de l'amélioration de la situation sanitaire dans le monde, parce que même en Europe, on a encore des soucis liés à la situation sanitaire. Donc, le deuxième moteur, c'est le développement de l'agriculture, bien sûr, parce que l'eau est une composante essentielle de l'alimentation et l'agriculture est le plus grand consommateur d'eau aujourd'hui. Troisième moteur, évolution de la consommation alimentaire. Les habitudes ont changé. On va dire que la population mange mieux, mais il y a une augmentation disproportionnée de la consommation de viande et de produits laitiers dans les pays à économie en transition. Pour vous dire, un kilo de blé demande 800 à 4000 litres d'eau. Et un kilo de bœuf nécessite 2000 à 16000 litres d'eau. C'est énorme. Alors, quatrième moteur, la croissance démographique. Donc, on voit que la population de la planète augmente.
Ouais.
Cinquième moteur, la croissance de la population urbaine. L'urbanisation va se poursuivre dans les années à venir avec la migration vers les villes. Sixième moteur, migration. En effet, les relations entre les ressources en eau et la migration, c'est un processus à double sens. La pénurie d'eau entraîne très souvent la migration. La migration contribue à son tour au stress hydrique.
C'est un cercle vicieux.
Complètement. Le septième moteur, c'est le changement climatique. Bien sûr, les réchauffements climatiques vont intensifier et accélérer les cycles hydrologiques mondiaux. Et en ce qui concerne le huitième moteur, c'est la croissance de la consommation d'énergie et la production de biocarburants. Les biocarburants sont utilisés pour répondre aux besoins énergétiques croissants aujourd'hui. Cependant, la production généralisée de biocarburants réduit encore la superficie cultivée pour les cultures végétales.
Et oui. Du coup, on imagine qu'il faut investir dans ce monde de l'eau. Aujourd'hui, où est-ce qu'on en est justement en termes d'investissement?
Le marché de l'eau et du traitement des eaux va atteindre 465,23 milliards de dollars d'ici 2028. Déjà, en raison de préférences élevées des consommateurs pour un produit respectueux de l'environnement, mais aussi, on va dire qu'il y a pas mal d'opportunités pour les investisseurs. Les compagnies des offrent de nombreuses opportunités d'investissement et pour commencer, on va parler du potentiel et des segments du marché de l'eau et des perspectives de son développement d'abord. Donc, le segment de l'eau purifiée, par exemple, a pris la plus grande part, plus de 35% en 2020. C'est énorme. Le marché mondial de l'eau et des eaux usées va prendre de l'ampleur avec un taux de croissance annuel de 7,3%.
Inhérente notamment à l'accroissement des villes qu'on évoquait dans la partie précédente.
Absolument, tout à fait. Aujourd'hui, l'accent, si on parle du marché en général, l'accent mis sur l'introduction de nouveaux traitements et le respect de réglementations strictes qui vont augmenter la demande pour ces produits dans le monde entier. On doit dire que un peu de statistiques quand même, on va parler par exemple des statistiques de 2019, près de 16 000 usines en fait, de dessalement dans 177 pays assuraient le traitement de l'eau. Il est prévu que la demande en eau ultra pure et sous des technologies de dessalement va encore augmenter. Donc ça, c'est la situation générale. Si on parle de la segmentation du marché de l'eau purifiée, on va dire que selon les activités des acteurs, le marché est généralement divisé entre les fabricants et produits chimiques, oui, et d'équipements et ceux qui fournissent les services. Le segment des produits chimiques va détenir une part très importante du marché mondial de l'eau. Et on parle de la période, cette croissance aura lieu entre 2021 et 2028. Cela est dû à la forte demande de produits chimiques qui éliminent les substances nocives, par exemple telles que le peroxyde d'hydrogène, d'autres polluants. Géographiquement, le marché est divisé entre l'Amérique du Nord, l'Asie-Pacifique, l'Europe, le Moyen-Orient et l'Afrique. En ce qui concerne le marché européen, le marché en Europe va également afficher une forte croissance et principalement soutenu par l'augmentation des travaux de rénovation menés actuellement sur les stations d'épuration partout en Europe. Il faut rénover, c'est sûr. Et la région Asie-Pacifique connaîtra une forte croissance dans les années à venir. Et cela est dû à des facteurs tels que l'adoption rapide de solutions de traitement des œufs usés. Et aussi, la Chine aujourd'hui et l'Inde favorisent l'introduction de solutions avancées dans cette région. Et ces deux pays, à mon avis, seront le moteur en fait, de ce marché dans cette région.
On est un tout petit peu pris par le temps. Juste, si on parle d'investissement et qu'on essaie de donner des conseils, est-ce qu'on peut savoir sur quelle niche, finalement, du marché de cette eau potable, quelle est la meilleure piste d'investissement, Natalia ?
Alors, je vous propose aujourd'hui deux marchés. D'abord, à mon avis, c'est toujours le marché de l'eau en bouteille. Puisqu'en 2021, le volume du marché mondial de l'eau en bouteille a été estimé à 240,28 milliards de dollars et le taux de croissance annuel, c'est 11,1%. Le deuxième marché, pour moi, c'est le marché des produits chimiques pour le traitement de l'eau. Parce que les produits chimiques spécialisés, utilisés pour purifier de l'eau pour des diverses industries, on va dire que c'est plus qu'aujourd'hui, inévitable de ne pas faire partie de ce marché. On a besoin de l'eau pour la consommation, pour la cuisine, pour l'irrigation, mais aussi pour les fins industrielles. Et ça, c'est là où ça devient intéressant. En 2019, le marché mondial de produits chimiques et de traitement de l'eau a été estimé à 28,9 milliards de dollars, avec un taux de croissance de 3,2%. C'est un nouveau marché, mais déjà un taux de croissance annuel. Il n'est pas mauvais. Alors, donc, pour vous dire qu'aujourd'hui, si on veut regarder dans quelle région investir, pour moi, c'est toujours l'Asie-Pacifique. L'Asie-Pacifique deviendra le plus grand marché mondial pour les produits chimiques de traitement de l'eau en raison de la demande déjà existante au Japon, en Chine, en Inde. Donc, voici mes conseils pour ceux qui veulent investir dans ce marché.
Ce marché de l'eau passé au crible ce matin par Natalia Riabko. Merci beaucoup d'être venue nous voir.
Merci
donc
beaucoup.
Pour Ascensia Business School, régulièrement avec nous dans Matière à réflexion. Le CAC, lui, continue à grimper. Pour le moment, on reprend même quelques couleurs. Plus 0,74, 6 718 points.
BFM Business, BFM Patrimoine. La sélection.
Comme chaque mercredi à cette heure-ci, on gère effectivement la sélection de BFM Patrimoine avec deux de nos gérants en ligne depuis la financière de l'Arc, Amandine Girard. Bonjour Amandine.
Bonjour Jean-François.
Merci d'être au rendez-vous. Et effectivement, Jean-François Gilles en plateau. Bonjour Jean-François.
Bonjour Cédric. Bonjour Amandine.
Pour Erasmus Gestion, bon, ces marchés, comment est-ce que vous les percevez? On a l'impression qu'ils veulent y aller, que finalement les 20% qu'ils ont repris depuis un mois et demi, deux mois, ça ne leur suffit pas complètement. Et que les 6-7% qu'il leur reste, ils les regardent avec gourmandise. Comment est-ce que vous voyez les choses, Jean-François?
Je pense qu'il y a des petites bonnes nouvelles qui ne justifient cependant pas un emballement, mais qui sont bonnes à prendre. Et effectivement, quand on regarde le détail des chiffres d'inflation, par exemple, publiés ce matin, ce sont des nouvelles encourageantes. Et ce que je pense, c'est qu'il ne faut pas en juger la partie gagnée, mais il faut simplement se dire que nous sommes sur la bonne voie. Et se rappeler en même temps que cette nuit, par contre, les PMI chinois ont été très mauvais. Oui. Ce qui veut dire que le ralentissement est devant nous, l'action des banques centrales contribue à l'approfondir, il est nécessaire pour juguler l'inflation.
Amandine, comment vous voyez les choses? Il reste, l'engouement des places peut continuer? On peut aller chercher les 6-7% qui nous manquent pour terminer, ce qui serait incroyable, l'année dans le vert?
Oui, incroyable, d'autant que je ne suis pas certaine que l'ensemble des gérants, y compris nous, finissent dans le vert. Une petite précision, le CAC 40 est de loin le meilleur performeur de l'ensemble des indices quasiment mondiaux. Je trouve qu'effectivement, là, on arrive quand même sur un certain niveau de complaisance, puisque comme le mentionnait Jean-François, on sait que la situation va être difficile. Et d'ailleurs, en France, pour l'instant, on est le bon élève de l'Europe, mais ce n'est pas dit que ça perdure pour 2023. Donc autant le marché avait très fortement sanctionné et en amont les chiffres économiques à venir, autant là on arrive sur une zone de complaisance. Dans le cas du CAC 40, c'est particulier parce que, comme vous le savez, le luxe représente une très forte pondération au sein de l'indice et un cycle total. Donc, de fait, oui, on pourrait aller chercher les 4-5% qui nous manquent, puisque si on va vers une réouverture de la Chine, ben, le VMH, Hermès et toutes les valeurs du luxe en seraient les premiers bénéficiaires. Il ne faut pas oublier que ces valeurs-là ont créé, ces sociétés-là ont créé la valeur en 2022. Et pour autant, quand on regarde les performances depuis le début de l'année du secteur, on est légèrement négatif. Donc la création de valeur de 2022 et les résultats et les niveaux de marge historiques n'ont pas été pris en compte puisque, comme nous le savons, on a eu un ajustement qui a été effectué par notamment la hausse des taux d'intérêt. Donc effectivement, pour répondre à votre question, Cédric, oui, on peut aller chercher ces 4-5% qui nous manquent.
Bon, ben voilà, deux visions au cœur de cette sélection. Maintenant, c'est vrai que, et l'un et l'autre, vous avez parlé de ce chiffre d'inflation. C'est vrai que ce matin, on est ressorti plutôt bien orienté, puisqu'on est sur le chiffre européen en dessous de son niveau du mois précédent, même si c'est pour un 0, quelque chose, mais 0,6 très précisément, puisqu'on est à 10%. Mais qu'est-ce que vous en dites, Jean-François? Vous dites, ça y est, on a vu le pic, ou comme le dit Christine Lagarde, peut-être n'a-t-on pas encore vu le pic? Enfin voilà, quelles sont vos anticipations d'inflation, Jean-François?
Il me semble qu'on a vu le pic, mais il est nécessaire de rappeler que les objectifs des banques centrales, c'est une inflation de 2%, autour de 2%. Pourquoi? Parce que c'est avec ce niveau d'inflation que, en gros, les économistes, les gouvernements savent gérer nos sociétés. Si on va au-dessus, c'est dangereux. On a un risque d'hyperinflation. Il faut le juguler. C'est la phase où nous sommes. Nous sommes dans la phase de descente. Maintenant, je n'ai pas encore vu d'économiste qui prévoit que ce taux de 2% sera atteint, que ce soit en Europe, que ce soit aux États-Unis, à la fin de 2023. Donc, dire les banques centrales vont lever le pouce, c'est pas du tout réaliste. C'est pas du tout réaliste.
Vous avez quoi comme anticipation d'inflation, Amandine? Vous pensez que vous avez une idée du rythme auquel cette inflation peut baisser?
Alors déjà, la situation, elle est, en termes de calendrier, elle est différente outre-Atlantique et chez nous, hein, puisqu'on l'a vu notamment avec les grandes GAFAM qui ont, ces dernières semaines, annoncé des chariots de licenciement. Donc, je pense qu'il faut s'atteler à ce qu'on appelle l'inflation core, donc l'inflation principale, qui est composée notamment des salaires. Et la hausse des salaires a eu lieu aux États-Unis. Or, en Europe, elle a eu lieu, et si on prend le cas de la France, sur le secteur public, mais très certainement qu'elle n'est pas terminée sur le secteur privé et qu'on va avoir en 2023, en début d'année, une poursuite de la hausse des salaires. Donc il y a ça qui est très important à prendre en compte. On parle d'inflation de 10% ce matin sur la zone euro, mais l'inflation core justement est de 5%. Donc on voit que la moitié de cette inflation est composée notamment de la partie énergétique. Donc là-dessus, effectivement, si on reste dans un scénario récessionniste, ça veut dire moins de demande et donc moins d'inflation importée au niveau de l'énergie. À part, là encore, si la Chine repart, c'est des gros consommateurs de matières premières. Donc, la situation européenne pourrait être quelque part sur un effet ciseau négatif, puisque si les matières premières continuent d'augmenter, on va avoir cette inflation importée du fait de notre dépendance énergétique, alors qu'on sera, pour le coup, rentré en phase de récession. Or, aux États-Unis, la situation est un peu différente, parce qu'on le voit sur le marché immobilier qui commence à baisser. Une grosse composante de leur inflation est notamment le niveau des loyers. Donc vraiment, deux situations calendaires différentes au niveau du coup de la politique des banques centrales et de l'inflation à venir. Sur l'Europe, on risque de rester sur un plateau. Sur les US, on sent bien la décélération qui arrive, mais effectivement, on est loin des 2%. Et ça paraît assez peu probable qu'on les atteigne avant l'automne 2023, en tous les cas.
Amandine a prononcé le mot récession. On peut y couper ou on n'y coupera pas, selon vous, Jean-François?
Non, je pense qu'on n'y coupera pas. En Europe, c'est plus que probable, et ça sera sans doute dès le premier semestre de l'an prochain, donc dans un mois. Mm-hmm. Et aux États-Unis, une petite chance d'y échapper, mais pas très grande. Et ce qui va avec et qui va aussi ramener les niveaux des valorisations des marchés à quelque chose de plus réaliste, c'est une très forte révision à la baisse des prévisions de résultats. Déjà aux États-Unis, c'est engagé. Depuis le sommet qui était à la fin du mois de juin, la révision des résultats 2023 est d'environ 8%. En Europe, les optimistes disent que les révisions seront de 10%. Les pessimistes disent, dans les pessimistes, il y a la grande banque américaine, Bank of America par exemple, disent que la révision sera de 20%. Donc vous voyez, c'est pas rien. Et en termes de valorisation, bien le multiple par lequel vous payez le marché, mais il se trouve augmenté, lui, au contraire, de 25%.
Vous avez tous les deux aussi parlé rapidement de la Chine. Il nous reste 4 minutes, donc on ne va pas pouvoir non plus faire une explication complète du dossier chinois. Mais comment vous percevez les choses sur cette Chine, Amandine ?
Alors, en lisibilité, c'est compliqué, puisqu'on n'a pas l'intégralité enfin, la communication, on va dire, est pas très institutionnelle. Mais ce qu'on sent bien depuis plusieurs semaines, c'est qu'effectivement, le peuple pousse. Et erreur de parcours du gouvernement par rapport à la Coupe du Monde et la vision des stades avec des gens sans masque. Donc là, on sent que le gouvernement est quand même obligé d'aller de l'avant et qu'il va y avoir des annonces déjà sur l'aspect sanitaire. Et très certainement, parce que Jean-François le mentionnait, les PMI de ce matin étaient très mauvais, donc sur un plan de relance. Il ne faut pas oublier que la Chine est le pire performeur depuis février 2021. Donc là, on ne parle même plus du niveau de valorisation quelque part, parce que effectivement, c'est très attractif en valorisation. Maintenant, quels sont les catalyseurs? Et les catalyseurs, c'est clairement une politique de relance. Si on a ça en 2023, alors dans ce cas-là, oui, il faudra avoir clairement des valeurs exposées sur la Chine.
Jean-François, pour compléter la Chine?
En fait, je crois que le gouvernement est dans une situation difficile, et pour deux raisons. La première raison, c'est que ce gouvernement chinois, c'est un gouvernement, un pays totalitaire, je le rappelle, mais il ne supporte pas le mécontentement social. Et là, et de façon plus forte que jamais au cours des 20 dernières années, il rencontre un grand mécontentement social qui n'est pas, comme à Tiananmen, uniquement celui des jeunes, des intellectuels, mais qui est plus profond dans la population. Donc, il a pris la décision de relâcher les restrictions liées au Covid à un moment, malheureusement, où le Covid est en train, au contraire, de connaître en Chine une phase d'expansion. Et parallèlement à ça, on voit dans les indicateurs économiques que ce qui s'annonce pour les 6 mois qui viennent, c'est un ralentissement assez fort. Donc, situation difficile. Le positif, c'est évidemment la volonté, enfin, de sortir d'une façon détournée de la politique Covid, zéro Covid, mais la maladie est là, et on sait très bien qu'en fait, s'ils ont appliqué cette politique zéro Covid, c'est parce que le système sanitaire chinois n'est pas à même de recevoir des trop grandes quantités de malades en même temps.
Allez, on termine parce que, bon, on l'aura bien compris, on n'a pas annoncé d'arbitrage, donc il ne va rien se passer sur la sélection malgré tout. On a un peu l'impression, quand on entend tout ce qu'on se dit, quand on voit la physionomie des marchés, qu'on n'arrive pas vraiment à le suivre, à le comprendre, Amandine, ce marché.
Alors, on n'arrive pas à comprendre les indices, mais encore une fois, ça dépend des pondérations des valeurs qu'il y a à l'intérieur. Faut pas oublier qu'on est en clôture de l'année 2022. Au mois de novembre, donc déjà beaucoup de hedge funds clôturent leur exercice fiscal aujourd'hui. Et donc ça veut dire aussi des débouclements de positions. Donc dans ce rebond violent qu'on a eu depuis un peu plus d'un mois, il y a aussi cet aspect synthétique, entre guillemets, du marché avec des débouclements de positions. Et rappelez-vous, on l'a mentionné nombre de fois sur ce plateau, avec des nominaux de produits dérivés très importants. Donc ça aussi, ça joue beaucoup sur la performance des marchés depuis un mois.
Du coup, on reste prudent, Jean-François, on garde notre cash,
Oui, après les échanges que nous avons eus entre nous ce matin, nous gardons nos 15% de cash. On peut louper peut-être une petite partie d'une hausse si elle a lieu d'ici la fin de l'année. On sera plus confortable pour aborder 2023.
Merci beaucoup à tous les deux. Donc, Amandine Gérard, financière de l'Arc, Erasmus Gestion et Jean-François Gilles partageaient la sélection cette semaine. Merci à tous les deux. Le marché, lui, reste pour le moment en hausse. Dans un instant, c'est 60 minutes business. Et Sandra Gandoin, bonjour Sandra.
Bonjour Cédric.
Votre menu.
On va parler de l'inflation qui recule dans la zone euro. 10% en novembre, c'était 10,6% en octobre. Les prix à la consommation qui ont progressé en France de 6,2% entre novembre 2021 et novembre 2020. On a eu plein d'indicateurs ce matin et on va en parler avec Jean-Marc Daniel et Thomas Schnell. On fera aussi un point sur le déplacement d'Emmanuel Macron à Washington, les gros dossiers brûlants sur la table avec Patrick Sauss. Et puis on recevra Épure qui travaille à installer des systèmes de freinage sur les fauteuils roulants manuels. Ça n'existait pas, c'est une fort bonne idée. Et Colin Gallois viendra nous en parler dans un quart d'heure.
C'est à suivre dans 60 minutes business avec Sandra Gandoin. Le CAC, lui, prend 0,56%, 6706 points. Et nous, on se donne rendez-vous demain matin à 10h. Très bonne journée.
C'était votre rendez-vous avec Échiquier Gestion Privée pour gérer et valoriser vos capitaux. Échiquier Gestion Privée, ensemble, faisons grandir votre patrimoine.
BFM Patrimoine, l'émission 100% placement sur BFM Business.